17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, et le grand témoin d'aujourd'hui, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est une diva, une actrice hors norme, une personnalité du cinéma, du théâtre, incommensurable, Jeanne Moreau. Donc notre grand témoin d'aujourd'hui, c'est Jeanne Moreau. Et pour la faire parler, bien sûr, on a invité quelqu'un qui l'a résumé, si on peut résumer Jeanne Moreau, en tout cas qui l'a compilé avec ses courriers, ses différentes expressions, dans un livre magnifique, un beau livre que je vous conseille pour les fêtes, Jeanne par Jeanne Moreau. C'est Jean-Louis Bonnet. Bonjour Jean-Louis.
Jean-Claude.
Merci d'être là, et c'est vraiment, vous êtes rarement à Paris, et c'est vraiment un bonheur que de vous avoir parmi nous sur le studio. On espère vous, en tout cas, vous avoir en 2024 plus fréquemment. Jean-Claude Bonnet, vous venez de sortir un livre sur Jeanne Moreau. Jeanne Moreau qu'on ne présente pas. Elle fait partie du siècle. Elle a éclairé le cinéma français. Elle a inondé la comédie française. Et Jeanne Moreau, une personnalité hors norme. Comment quelqu'un comme vous, vous avez été directeur au CNRS, vous avez dirigé des ouvrages, etc. Comment vous êtes venu à écrire un livre sur Jeanne Moreau ?
Écoutez, je renoue un peu avec ma jeunesse, sinon mon enfance, parce que quand j'étais au lycée de Moulins, je voulais faire l'IDEC, l'école de cinéma, et j'ai toujours été très 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 cinéphile. Et puis j'ai écrit 10 ans sur le cinéma à mes débuts dans une petite revue qui s'appelait Cinématographe, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté dans ma vie de chercheur pour étudier la littérature. Et donc écrire maintenant sur Jeanne Moreau, c'est revenir à des passions anciennes et qui ne m'ont jamais quitté.
Alors Jeanne Moreau, c'est on peut pas rester indifférent devant Jeanne Moreau. Elle a ce visage, elle a ses lèvres, elle a cette espèce de sensualité qui se dégage de son corps, de sa bouche, de ses yeux. C'est quelqu'un d'extraordinaire, et on la retrouve dans un nombre incalculable de films, que ce soit La Nuit, Jules et Jim, L'Ascenseur pour l'Échafaud, Les Amants, Le Train, Viva Maria, La Mariée était en noir, Les Valseuses, Querelle, Touché pour Grisby, et bien d'autres. Et elle a côtoyé Brigitte Bardot, Jean Gabin, les plus grands. Ça a dû être compliqué quand même de rentrer dans un personnage comme ça.
Je dois dire, quand le fonds Jeanne Moreau m'a envoyé une clé avec toutes les archives de Jeanne en me disant « faites une expertise, voyez si on peut en tirer quelque chose », j'ai tout de suite accepté, et j'ai trouvé ça extraordinaire, puisque j'avais sous les yeux tout à coup non seulement des essais autobiographiques de Jeanne, mais des lettres qu'elle a envoyées, des lettres d'amour à Klaus Michael Gruber, à Roger Nimier, et puis toutes les lettres qu'elle a reçues. Quand vous avez sur votre écran tout à coup des lettres de Buñuel, d'Orson Welles, de Jean Renoir, de Cukor, ça m'a vraiment fait un choc, et j'ai trouvé ça absolument passionnant, parce qu'effectivement, il y a comme une aventure du XXe siècle, en fait, avec ces grands noms.
Totalement. D'ailleurs, on va rentrer dans le livre, hein. On va aborder chapitre par chapitre. Vous venez de parler à l'instant quand le fonds Jeanne Moreau m'a appelé. C'est vrai qu'elle a fondé un fonds pour le théâtre et le cinéma.
Voilà, elle a voulu, alors elle a, en accord avec son avocat, Robert Guillaumont, elle a demandé qu'à sa mort, il y ait un fonds pour le théâtre, pour le cinéma et pour la jeunesse, et pour gérer aussi ses archives à elle et sa mémoire, en quelque sorte son héritage.
Alors, vous dites la jeunesse, mais dans les archives, on dit le théâtre, le cinéma et l'enfance.
Oui.
Et elle a un problème avec l'enfance. Jeanne Moreau, c'est quelqu'un qui a un problème avec la maternité. Mmh. Et c'est un problème, elle a eu un problème avec l'enfance. Elle n'a jamais voulu avoir d'enfant. Mmh. Et elle a été violée dans son enfance par un de ses professeurs de théâtre. Elle garde cette cicatrice au fond d'elle-même. C'est ça qui lui a fait refuser une éventuelle maternité ?
Non, je ne crois pas. Je crois qu'elle n'était pas maternelle. Alors elle a accepté cet enfant, elle était partie à Genève pour un avortement, Et à la dernière minute, elle est rentrée à Paris, elle a senti l'enfant bouger dans son ventre.
Elle a accepté. Elle était enceinte de Jean-Louis Richard.
De Jean-Louis
son
Richard.
Son premier mari.
Qui, voilà.
Et d'ailleurs, elle était enceinte bien avant de se marier. Et je crois qu'elle s'est mariée en 49. Oui. Je crois le 28 septembre 49. Elle s'est mariée le lendemain, elle a accouché.
Oui, absolument.
Donc
elle
s'est mariée avec un ventre de 9 mois.
Non, mais alors simplement, si vous voulez, elle était pas maternelle. C'est quelque chose qui existe. Il y a des femmes qui ne sont pas maternelles. C'était pas son problème dans la vie, simplement elle s'est bien occupée de son fils.
Oui, mais cette maternité l'a rattrapée, parce que son fils, il y a eu un accident de voiture. Il y a eu un accident.
Sur le tournage de Moderato Cantabile.
Son fils s'appelle Jérôme, voilà. Et elle a failli le perdre. Oui. Et le fait d'avoir failli perdre son fils, il y a eu une espèce comme ça de retour en maternité. Oui. Et là, elle a senti quelque chose quand même.
Bien sûr. Mais si vous voulez, on peut faire le parallèle, nous en reparlerons sans doute, avec le père. Parce qu'il y a un sentiment filial et il y a un sentiment paternel. Dans les deux cas, il y a eu un problème pour elle. Et finalement, ça s'est soldé par des réconciliations, mais après beaucoup de difficultés.
Et elle dit un truc incroyable. D'ailleurs, je crois que dans la préface, c'est Rebecca Marder qui dit ça, dans la préface du livre. Elle dit « Je t'ai jamais dit que je t'aimerais toute ma vie ». C'est ce qu'elle dit, je crois, à son mari.
Mais ça, c'est la chanson très connue de Pierrot le Fou, que chante Anna Karina dans Pierrot le Fou.
Mais elle l'a fait sienne. Elle fait sienne cette maxime.
Oui, alors ça, c'est un thème très difficile à aborder, que la fidélité. Jeanne a eu beaucoup d'expérience. Mais moi, dans le livre, je n'ai pas voulu être dans cette comptabilité. Je me suis plutôt intéressé à ce qui est le plus touchant, ce qu'elle dit dans sa correspondance, c'est qu'en fait, les choses qui ont compté, ce ne sont pas les aventures, ce sont les amours, et qui, dit-elle, ont toujours été liés à son travail. Elle dit, à un certain moment de ma vie, je n'ai aimé que des gens avec lesquels je travaillais.
Et il y a un amour pas comme les autres, c'est celui qu'elle a avec Pierre Cardin.
Oui,
elle est un peu particulier. Elle vit pendant 4 ans avec Pierre Cardin.
Alors, moi, j'ai découvert dans ce livre, si vous voulez, quelque chose de chez Jeanne que je n'avais pas saisi, qui est pas une fascination, mais enfin, en tout cas, un intérêt pour l'homosexualité masculine. Pas du tout du côté des femmes, semble-t-il. Mais là, elle a vécu 4 ans avec Pierre Cardin. Elle a vécu un certain temps avec Guy Gilles, qui était le cinéaste homo, non pas militant, mais poétique des années 70. Son meilleur ami était Jean-Claude Brialy. Donc, vous voyez, il y a une espèce de... Elle tourne dans querelle. C'est pas pour rien que Fassbinder fait appel à... Sa dernière prestation, c'est Genet, c'est avec Étienne Dao, chanter Le Condamné. Donc, il y a cette chose-là, cette dimension-là que je n'avais pas comprise. Et elle dit à son père, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une querelle avec son père... Pour être actrice, il faut être hors norme. Elle l'a vraiment été. Elle a eu une espèce de parcours très, très singulier. Mais moi, ce qui compte pour moi à retenir, c'est quand même l'amour lié au travail. Et ça, dans la correspondance qu'on publie là avec Klaus Michael Gruber, au moment de la Servante Zerline, qui est son dernier grand succès au théâtre, ces 50 lettres sont un journal. De ce point de vue, elles font entièrement partie de l'autobiographie, sont un journal d'un amour et d'un travail. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant.
Le fait que elle s'est complètement investie dans le cinéma, dans le théâtre, le fait qu'elle a tout donné à cet art, est-ce que c'était pas une espèce de fuite en avant Jeanne Moreau, vous le dites dans le livre, c'est quelqu'un qui n'a pas été désiré. Elle est née, mais on ne l'a pas désiré. Son corps n'a pas été désiré. Sa présence n'a pas été désirée. Et donc, il n'y a pas une fuite en avant vers quelque chose où peut-être elle se faisait désirer par le public, par les gens qui allaient au cinéma, etc. Est-ce qu'à ce niveau-là, est-ce que ceci n'explique pas cela ?
Écoutez, il y a eu un miracle, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, Jeanne ne s'aimait pas physiquement. Elle dit « J'ai les yeux cernés, la bouche qui tombe, pas de sein ». Et elle n'aime pas du tout ces photos de petites filles ingrates, disait-elle. Alors, ce qui est paradoxal. Mais il faut bien dire que les cinéastes français de tradition, les plus grands cinéastes, n'ont pas fait appel à elle. Et Duvivier, qui est par ailleurs un immense cinéaste, a dit devant elle, quasiment, en lui faisant faire des essais, « Physionomie nulle ». D'ailleurs, il va falloir, si vous voulez, le miracle, ça a été la nouvelle vague. Ça a été Louis Malle qui... Ce sont des gens qui ont reconnu immédiatement sa grâce, sa façon de marcher, et lui ont demandé d'être naturel, de ne pas être maquillé, de ne pas faire des retouches après chaque plan comme on faisait dans l'ancien cinéma. Hein. Elle a dit non, pas de ça.
Est-ce que finalement, le succès, parce que c'est une vraie diva... diva au sens Brigitte Bardot, Sophia Loren, Lolo Brigida, oui. Simone Signoret, etc. Est-ce que c'est pas parce que Jeanne Moreau jouait Jeanne Moreau, en fait? C'est-à-dire qu'elle ne se forçait pas pour jouer les rôles. Elle était nature dans les rôles qu'on lui donnait.
Oui, mais alors ça, c'est quand même... Elle a été la muse du nouveau cinéma. Une question très importante aussi, c'est que c'était des jeunes gens. Et qu'avec des jeunes gens, elle n'a pas ressenti une tutelle autoritaire paternelle que dans sa vie, elle avait vécu comme quelque chose de grave. Et c'est des jeunes gens qui ont fait d'elle leur muse, en lui disant « Fais ce que tu veux ». Et elle a fait. Et elle a improvisé d'une manière absolument géniale. Et elle a correspondu, et c'est ça le miracle, à un moment du cinéma qui a fait appel à elle. Et c'était vraiment la personne qu'il fallait.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
Oui, et puis grand témoin aujourd'hui, Jeanne Moreau. Et Jeanne Moreau qui fait l'objet d'un magnifique livre, un beau livre que je vous conseille pour les fêtes. Jeanne Moreau, Jeanne par Jeanne, et c'est raconté par Jean-Louis Bonnet qu'on a le plaisir de rencontrer. Alors, je disais, Jeanne ne laissait personne indifférent. Et dans sa préface, Rebecca Majeure dit « Bouche à l'envers, sévère, puis à l'inverse, tout en sourire, joyeuse et ténébreuse, espiègle et respectueuse. » Et un peu plus loin, sa mère, qui parle de Jeanne, la maman de Jeanne, dit « Elle ne sait pas quoi faire de son corps », répétait sa mère à propos de son enfant. Et rêveuse lorsqu'elle s'ennuyait, elle traînait comme une âme en peine, et devenir actrice reviendrait à savoir quoi faire de son corps. Donc c'est ça ?
Oui, alors, elle ne sait pas quoi faire de son corps, c'est une formule que j'ai entendue dans ma région, le père de Jeanne Moreau et du centre, du Bourbonnais, et c'est une formule qu'on entendait souvent. On disait aux enfants, tu t'ennuies, tu ne sais pas quoi faire de ton corps. Eh bien, il m'est apparu qu'il a fallu la nouvelle vague pour qu'elle sache quoi faire de son corps, pour qu'elle sache comment être elle, comment s'occuper, en quelque sorte.
Alors, Jeanne Moreau, on va dans le livre aussi, elle fonctionne comme un aimant. C'est un aimant. Et donc, on la retrouve au milieu d'un tas de personnalités différentes. Avec Orson Welles, avec Mylène Kundera, Joseph Losey qui établit domicile chez elle, des gens comme Delphine Seyrig, et puis on la voit aux côtés de Stéphane Hessel, de Jean-Paul Belmondo, de Jean Gabin. C'est quoi c'est quelqu'un d'électrique? Elle attire les gens, c'est un aimant?
Ah oui, elle a certainement fasciné. Buñuel, il y a une fascination évidente. Les 5 ou 6 lettres là, que j'ai publiées de Buñuel, d'abord il dit que c'est la plus grande actrice qu'il ait dirigée. Donc c'est, venant de Buñuel, ça n'est quand même pas rien. Ils n'ont pas pu faire d'autres films, mais bon. Welles, c'est autre chose. Welles lui a dit « Je vous ai aimé la première fois que je vous ai vu et vous ne vous en êtes pas rendu compte. » En tout cas, il y a eu entre eux une longue amitié. Et pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure sur le physique, je crois qu'il y a en commun entre Jeanne et Welles un problème de son corps et de son physique. Alors pour Welles, c'est encore plus crucial, puisque au fil des ans, il est devenu ce qu'il était. Et dans Falstaff, il devient un gros bonhomme avec Jeanne, justement, qui fait passer les choses par sa tendresse. Mais Jeanne a eu ce problème aussi de son physique, puisqu'elle, comme nous le disions, elle ne s'aimait pas. Mais elle a trouvé la solution avec ce cinéma très, très naturel, comme vous le disiez, et où elle a accepté son corps. Elle a accepté son corps, son
visage.
Comment
elle gérait ? Est-ce qu'elle se sentait être une diva, comme Gina Lollobrigida, ou comme Bardot, ou comme Sophia Loren ? Est-ce qu'elle se sentait ? Est-ce qu'elle avait elle reconnaissait que c'était une diva ? Elle le savait ?
Tout à fait. Mais alors, pas comme sex symbole, pas comme les grands corps du cinéma italien. Vous parlez de Gina Lollobrigida, Sophia Loren, c'est des personnes qui sont... presque comme Fellini, des archétypes.
Il y a un côté trouble chez elle.
Oui, chez elle, il y a
un côté trouble.
Il y a autre chose.
Ouais.
Alors, pour ce qui est d'être une diva, je pense que elle dit très bien dans les textes là qu'elle n'a pas aimé les paparazzi. Elle a été la première génération d'acteurs et d'actrices qui ont fait l'expérience des paparazzi. C'est-à-dire, elle explique très bien que comme actrice de théâtre, finalement, ce sont des critiques qui parlaient d'elle dans un petit milieu confiné. Dès qu'elle devient actrice de cinéma, il y a Cinémonde, il y a les grandes revues, on lui demande des interviews, et c'est un tout autre univers qui est celui des paparazzi, que c'est quand même le thème de la Dolce Vita. Et la Dolce Vita, ça correspond au début de Jeanne. Et effectivement, elle a détesté les gens qui voulaient lui voler son image. Autant elle acceptait les photos de tournage, de plateau, qu'on la photographie au travail, mais qu'on lui vole une photo privée, c'est une chose qu'il a toujours exaspérée.
Et Rebecca Marder, dans sa préface, est une jeune actrice franco-américaine d'une trentaine d'années. Elle dit quelque chose, elle dit « J'ai toujours été sidérée par sa liberté et sa folie ». Mais souvent, l'un ne va pas sans l'autre.
Oui.
Jeanne Moreau était quelqu'un de libre et quelqu'un d'un peu foufou, c'est ça ?
Je vous disais tout à l'heure, elle a dit à son père, quand on veut être actrice, il faut être hors norme. Donc forcément, c'est forcément un brin de folie.
Être actrice, c'est être dans la culture, et la culture,
je dirais...
Vous êtes dans la transgression,
la folie,
en général,
oui.
quand vous êtes dans la culture. Cinéma, a fortiori le cinéma.
Oui, mais il y avait une pudeur chez elle. C'est pour ça que moi, dans le livre, j'ai pas insisté, j'ai pas voulu dénicher un vilain petit secret. Elle n'était pas cachotière. Il y a chez elle, c'est ce que j'admire le plus, et c'est une espèce de franchise primordiale. Alors, une franchise qui est à la fois sauvage et sage. Il y a les deux. Sauvage, c'est un peu de la folie, oui. Mais, si vous voulez, qui ne donne jamais... qui ne dépasse jamais, qui franchit jamais la ligne rouge, c'est-à-dire, c'est toujours, ce n'est jamais grivois, ça n'est jamais, ça reste toujours dans certaines limites.
C'est vrai que c'est jamais vulgaire.
Voilà. Par exemple, moi, la question que je me suis posée, 50 lettres d'amour à Klaus-Michael Gruber, est-ce que c'est un abus de ma part de les publier ? Elle n'est plus là. Et puis, il m'est apparu que ces lettres avaient une grande dignité. C'est les lettres d'une grande amoureuse, mais il n'y a jamais de vulgarité, elle n'est jamais du côté d'un vilain petit secret, tout ça. Ça, c'est quelque chose qu'elle détestait. Elle a un rapport à la vie qui est dans un naturalisme de bon aloi. Et ça, c'est quelque chose que j'admire le plus, peut-être, en elle.
Une grande dame est très difficile à raconter, puisque elle dit aussi, Rebecca Marder, est-ce qu'il y aura assez de tout l'alphabet pour la raconter ? Mais vous l'avez raconté aussi à votre façon.
Oui, enfin, c'est une formule par rapport à l'abécédaire, qui est un livre de Jeanne, où elle a effectivement commencé par la lettre A.
Et puis elle n'a pas été plus loin.
Non, bah déjà, il y a plusieurs entrées.
Elle n'a pas été plus loin.
Oui, mais ça, si vous voulez, c'est un autre sujet important qui est celui de pourquoi Jeanne n'a pas publié ses textes autobiographiques de son vivant. Si vous voulez, le problème que j'ai eu éditorial, qui était très, très ardu et qui m'a demandé des choix hardis, c'est que Jeanne nous a laissé dans ses archives toutes sortes de textes qui sont des tentatives autobiographiques différentes. Alors, d'abord, ce que j'ai compris, c'est que elle commence à être intéressée et fascinée et obsédée par l'histoire de sa vie après la mort de son père. Son père meurt en 1975 et c'est en 1976 qu'elle commence. Alors elle a deux tentatives autobiographiques différentes et j'ai dû choisir entre les deux. C'est se raconter au jour le jour, année par année. C'est ce qu'elle fait dans un grand entretien avec Henriette Jelinek. Et c'est ce qu'elle fait dans un texte intitulé Autobiographie, qui va jusqu'aux années, jusqu'à 46. Et simplement, elle a compris. Alors moi, j'ai mis très longtemps pour comprendre. Elle a été déçue par cette façon de raconter sa vie. Parce que, dit-elle, quand on essaie de mettre les choses en ligne, quand on est obsédé par la chronologie, eh bien, toute la vivacité de l'invention se perd.
Oui.
Et donc, elle n'a pas proposé ça, alors que ça semble presque fait.
Elle n'a proposé à aucun éditeur. On tord le coup aux événements. Les événements sont arrivés comme ça dans la vie.
Voilà.
Lorsqu'on les aligne de façon comme ça, il se dégage une espèce d'orthodoxie de biographie. Et peut-être que Jeanne ne voulait pas s'enfermer dans cette orthodoxie.
Bien sûr.
Elle voulait peut-être laisser cette liberté après aux gens peut-être d'avoir des entrées aussi différentes que passionnantes.
Alors, elle a fait donc, si vous voulez, ces textes qui sont chronologiques et qui sont un peu décevants, qui sont un peu ennuyeux. Et elle a fait des enregistrements thématiques avec des grands sujets, la nourriture, la sexualité, la vocation théâtrale, mon aventure avec Cardin et tout. Et je me disais, mais quelle source je vais prendre? Et je suis tombé, et c'est ça la recherche, si vous voulez, c'est de tomber sur une phrase qui vous donne le feu vert. Et la phrase qui m'a donné le feu vert et que j'ai mis des mois à trouver, mais sur laquelle je suis tombé, c'est « Je préfère parler par impression ». Et puis après, on verra, ces impressions, évidemment, ne sont pas chronologiques.
C'est une belle
formule. On verra comment les relier.
Si
vous voulez, moi, je me suis dit, j'y vais, je choisis les enregistrements thématiques. Simplement, elle avait dit, ces enregistrements thématiques, il faudra tout refaire, le livre sera à refaire, parce que c'est plein de digressions, plein de... Alors, mon travail a été, dans ces enregistrements, de trouver à chaque fois une ligne rouge, et d'évacuer le reste, comme un travail de sculpteur. J'ai simplement ôté les digressions. Et à l'arrivée, ça donne finalement des textes qui se tiennent. Voilà.
Moi, j'ai été marqué par trois films de Jeanne Moreau. J'ai pas tout vu, mais j'ai été marqué par Querelle. J'ai adoré ce film. Par Touchez pas au Grisby avec Jean Gabin. Et puis Les Valseuses. C'est trois films qui m'ont marqué.
Oui.
Quels sont les films, vous, qui vous ont marqué?
Alors, bon, Querelle, j'ai revu il y a trois jours. J'étais un petit peu déçu quand même, parce que si vous voulez...
Il a pris un peu d'âge.
Ce que je trouve, c'est pas tellement ça, c'est que... bon, il était quand même très malade, Fassbinder, à ce moment-là, mais très diminué. Mais c'est qu'il a quand même... on est à Berlin, on n'est pas à Brest.
Absolument.
On est dans un cabaret. C'est Berlin années 20, c'est-à-dire Fassbinder.
Ouais. Ouais.
C'est pas du tout toute la mythologie française de Fassbinder. Alors ça m'a déçu. Les valseuses, bien sûr.
Ah ouais, c'est magnifique.
Cette scène absolument sublime,
magnifique.
Où ces deux garçons de 20 ans de moins qu'elle l'emballent, lui font boire du champagne, la mettent dans leur lit. Bon, c'est... Elle seule pouvait... Alors justement, là, on voit cette folie et cette pudeur, ce mélange, pour quand même, le problème de l'âge, pour une femme dans ces années-là. Bon, elle s'en sort d'une manière extraordinaire.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan.
Oui, et le grand témoin, c'est Jeanne Moreau, et bien sûr, sous la plume de Jean-Claude Bonnet, avec ce magnifique livre Jeanne par Jeanne. Jeanne, une actrice tourmentée. Son corps, son jeu, le cinéma, le théâtre, la comédie française. D'ailleurs, c'est la première femme qui rentre à l'Académie des Beaux-Arts. C'est la première femme. Est-ce qu'on peut dire de Jeanne Moreau que c'est un monstre sacré, lorsqu'on qualifie un peu des gens comme elle qui ont éclairé, éclaboussé le monde de la culture, du spectacle, du cinéma? Est-ce que c'était un monstre sacré?
Ah oui, je pense, par cette énergie. Il y a aussi cette violence. Hein. Elle dit qu'elle était une petite fille violente. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, avec son père, elle met un peu de l'eau dans son vin. Elle dit, moi, j'ai mes torts aussi. Mais cette violence, c'est la violence aussi qu'elle a utilisée pour son jeu, pour l'art. C'était une femme passionnée. Et c'est ça qui marque les gens. Alors, est-ce qu'elle est encore là? Est-ce qu'elle est présente pour la jeune génération? Bon, c'est difficile à dire parce que c'est des films quand même qui déjà s'éloignent. Ils repassent sans cesse à la télé. Il y a de grands chefs-d'œuvre. Ce qu'il faut marquer peut-être ce qui reste dans la mémoire des gens, c'est sa voix, ce sont les chansons. Il y a eu une petite annonce sur le livre là, sur France Inter, et tous les gens sur le plateau se sont mis à chanter. Et il faut dire que la nouvelle vague lui avait non seulement fait découvrir et accepter son corps, mais la nouvelle vague lui a fait accepter sa voix. Et elle a toujours été très sensible à sa voix. Une des choses qu'elle raconte, sa première découverte du cinéma, c'est quand elle habitait à Paris, à Pigalle. Sa chambre donnait sur une cour où donnait un cinéma. Et donc elle s'est endormie, jeune fille, en écoutant des films, les voix, sans l'image. Et ces voix, qui étaient les grandes voix du cinéma français d'avant, eh bien, c'était, pour elle, le cinéma était d'abord ça. Et ensuite, elle a travaillé sa voix en faisant beaucoup de radio pour ses fins de mois, quand elle était à l'Académie française. Mais la nouvelle vague dans les voix off, vous prenez Ascenseur pour l'échafaud, Louis Malle, il a déjà cette voix off, le téléphone. Et la voix prend tout à coup une extension qui est propre à l'exercice du cinéma de la nouvelle vague. Et ceci, c'est évidemment avec Jules et Jim. Et la chanson de Jules et Jim qui a fait le tour du monde. Après, elle a fait des disques. Et je crois que sa voix a marqué vraiment des générations. Et qu'elle continue à fasciner. Parce que cette clarté de ses chansons, mais c'est inouï. Et ça, c'est quelque chose qui reste vraiment. Et qui font effectivement d'elle un monstre sacré.
Et vous avez entièrement raison. Parce que si vous fermez les yeux... Alors, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais dès le premier son, on sait que c'est Jeanne Moreau. Il y a des voix comme ça. Brigitte Bardot, c'est un peu pareil. Bon, et puis après, il y a tout un tas d'actrices, même très célèbres, qui ont des voix pas pareilles, mais elles ne sont pas aussi marquées. Jeanne Moreau, vous fermez les yeux, la première seconde, vous savez que c'est Jeanne Moreau. C'est incroyable. C'est quelque chose qui est complètement qui lui appartient.
Alors, si vous voulez, elle l'a découvert très tôt, ça, puisqu'elle était originaire du centre. Là, elle a vécu entre ses 5 et 10 ans à Vichy. Et la première fois où elle a compris qu'elle avait une emprise, qui est celle des acteurs et des actrices, c'est quand, pendant les cours de couture, à l'école, on la mettait sur une petite estrade et on lui demandait de faire la lecture. Et elle a compris, à 6 ou 7 ans, qu'elle avait un pouvoir sur les autres du fait de sa voix, de sa diction. Et ça, ça ne l'a jamais quitté. Et je crois qu'à partir du moment où elle a compris cela, elle a décidé qu'elle serait actrice. Elle a travaillé sa voix, donc dans des cours, évidemment, à la radio, et ça a été une chose essentielle.
Alors, Jeanne, par Jeanne Moreau, Jean-Claude Bonnet, on voit Jeanne sur la couverture avec une robe de Pierre Cardin, c'est aux éditions Gallimard. On va pas déflorer le livre, on va donner envie quand même aux gens de l'acheter. Et d'ailleurs, c'est un très beau livre. Je pense que dans la correspondance, dans les correspondances de Jeanne Moreau, chacun y trouvera un peu de lui-même. Je pense qu'elle laisse personne indifférent et on retrouve des sentiments, on retrouve des émotions, des impressions, comme vous avez dit à l'instant. Alors, ce livre, comment vous l'avez construit? Comment il est composé?
Écoutez, quand j'ai découvert les archives de Jeanne, j'ai vu qu'il y avait deux massifs. D'abord, tous ces essais, ces tentatives non abouties, parce qu'elle était satisfaite d'aucune autobiographique, et puis une autre masse qui était la correspondance. Donc le livre se distribue d'abord par des textes de Jeanne, sur un premier ensemble sur la petite enfance, qui sont des textes très écrits, absolument charmants, sur son enfance bourbonnaise, sur son père, sur sa famille, sur un personnage qui l'a beaucoup marqué, qu'elle appelle la mémé, mais qui n'est pas sa mémé, qui est une mémé d'élection. Ses deux grands-mères, dit-elle, avaient les lèvres pincées. Ben, celle-ci n'avait pas les lèvres pincées. C'est une femme qu'elle a adorée et chez qui elle est allée souvent en vacances dans l'Allier. Donc elle parle de cette enfance rustique, campagnarde, avec vraiment des textes charmants. Et je pense que Buñuel, par exemple, a reconnu tout de suite chez Jeanne cet aspect nature campagnarde. Brialy voyait en elle une paysanne. Et ça, on le comprend, on le découvre en lisant le livre. Ensuite, il y a des textes qui sont tirés d'enregistrements, qui sont moins écrits, qui sont très intéressants comme témoignages, où on apprend comment Jeanne a su se trouver une autre famille que la sienne, avec laquelle elle avait eu certains déboires, surtout avec son père, comment elle a trouvé comme famille le théâtre et le cinéma, et puis comment elle s'est acceptée, et comment ce corps qui, au départ, ne lui convenait pas trop, est devenu un merveilleux instrument pour être l'immense actrice qu'elle est devenue.
Et puis il y a toutes ces lettres qui sont envoyées à Jeanne Moreau, Louis Malle, François Truffaut, il y a Delphine Seyrig, il y a, comment dire, Fanny Ardant, Yves Saint-Laurent, donc elle reçoit plein de lettres, et ces lettres sont dans le livre.
Alors ces lettres montrent justement tout son rayonnement, en fait, tout son rayonnement, et certaines sont très touchantes. Je parlais de celle de Buñuel, celle de Wells aussi, des gens qui l'ont vraiment aimée.
Lauzet, Marguerite Duras.
Voilà, il y a une lettre de Marguerite Duras. Alors on a eu un problème avec parce que les ayants droit donnent pas toujours la permission. Les filles de Truffaut ont permis qu'il n'y ait que 3 lettres sur 13. Mais en général, tout s'est très très bien passé. Il y a les lettres de Florence Malraux, que Alain Malraux a été très content de voir publiées, et qui sont passionnantes. Et puis il y a les lettres de Jeanne. Alors ça, il y a les lettres à Roger Nimier, qui sont très charmantes, où on voit que c'est pas seulement une amitié amoureuse, que ça a quand même été une relation assez complète. Et puis il y a surtout ce que j'évoquais tout à l'heure, ces 50 lettres à Klaus Michael Gruber, qui donnent une image de Jeanne, alors plus tardivement, dans les années 80, et qui sont au journal de sa vie, et qui, de ce point de vue, ces 50 lettres font pleinement partie de l'autobiographie et sont en quelque sorte une suite très logique, finalement, au texte du début qui sont sur l'enfance, la petite enfance, et sur les années de formation. Donc le livre, si vous voulez, permet un parcours sur toutes les années. Alors ce qu'il faut dire, c'est que non seulement, alors il y a le fond photographique Jeanne Moreau qui est colossal, donc il y a tout un des photos de famille sur l'enfance qui sont totalement inédites. Et puis pour ce qui est de la correspondance, j'ai repéré dans cette correspondance les lieux où il y avait autre chose que le texte, c'est-à-dire des petits dessins, de la couleur, où il y avait un joli papier, une jolie encre.
Par exemple, une très belle fleur de Louise de Villemorin, oui. Et qui dit à Jeanne, « Jeanne, tu as oublié cette fleur dans notre jardin, la voici avec tout mon amour, ta Louise. » Et puis elle lui dessine une petite fleur, Louise de Villemorin, qui a contribué...
Un trèfle à quatre feuilles.
Voilà, un trèfle à quatre feuilles, donc qui porte chance. Et Louise de Villemorin, qui a contribué au scénario des Amants. Donc c'est un très beau message d'affection et d'amitié.
Voilà. Alors je veux dire, si vous voulez, le côté beau livre est vraiment très important, parce que les éditions Gallimard ont choisi un papier magnifique qui fait que les photos pleines pages
le papier, c'est du parchemin,
absolument superbe.
C'est du parchemin,
et que les facsimilés sont extrêmement bien sortis.
Ouais.
C'est-à-dire que les encres, il y a une qualité des couleurs de papier qu'elle choisissait.
C'est pas très cher. Alors il y a un truc qu'on n'a pas dit, dedans il y a de magnifiques photos. C'est-à-dire que moi, en lisant ce livre, des fois j'ai passé, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes sur une photo. C'est-à-dire qu'il y a des textes qu'on lit, et puis il y a des photos qu'on regarde, qu'on décrypte, qu'on regarde dans tous les sens. Les photos sont impressionnantes. Il y a des photos de Jeanne Moreau, mais qui vous prennent, quoi, qui vous coupent le souffle. Ces photos sont magnifiques.
Oui, alors beaucoup, la plupart sont inédites. Et donc, par exemple, il y en a une que j'adore, c'est celle sur le tournage de la nuit, où Jeanne et Mastroianni... jouer un couple qui se déchire et en même temps ils se retrouvaient, ils vivaient une idylle. Il y a une photo qui dit ce bonheur et c'est une photo magnifique. Et il y en a beaucoup d'autres qui ne sont absolument pas connues, inédites, et qui sont superbes. Il y a des photos pleines pages, il y a une mise en page qui a vraiment été extrêmement calculée et qui est très réussie, me semble-t-il. Alors, qui fait qu'on a envie d'ouvrir ce livre constamment et de le relire. Oui.
On peut l'ouvrir sans arrêt, s'y replonger, et on s'en séparera pas. Donc plongez vite dans ce Jeanne par Jeanne Moreau, préfacé par Rebecca Marder aux éditions Gallimard, un magnifique livre que Jean-Claude Bonnet a mis 3 ans à écrire.
Deux ans et demi, trois ans,
vous m'avez dit. On n'a pas parlé de vous, mais on en parlera plus tard. Vous avez écrit des choses magnifiques, comme La naissance du Panthéon. Vous avez eu le grand prix de l'histoire de Chateaubriand là-dessus. Vous avez beaucoup travaillé sur la littérature du XXe siècle. En 2015, vous avez sorti un livre magnifique sur la gourmandise et la faim. On y reviendra, bien sûr, sur Beurre FM en 2024. Et vous vous êtes entouré d'un tas de gens qui ont des touche-à-tout. Et vous avez travaillé sur l'art, l'architecture. Donc, Jean-Claude Bonnet, je comprends pourquoi Gallimard a fait appel à vous pour faire ce livre sur Jeanne Moreau. Moi, en lisant ce livre, pour moi, Jeanne Moreau est devenue plus qu'une amie. C'est devenu quelqu'un qui m'a réconcilié avec un siècle, réconcilié avec le cinéma. J'ai trouvé des choses incroyables au niveau de l'émotion. On a des choses, des sentiments, des choses qui vous assaillent comme ça qu'on ne pensait pas avoir avant de l'ouvrir. Donc, merci d'avoir commis ce livre, Jean-Claude Bonnet, Jeanne par Jeanne Moreau. Et on aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir. Et puis, surtout, vous, de vous recevoir après les fêtes en 2024 et de parler de votre œuvre. Et puis, pourquoi pas faire des choses ensemble. Je sais que vous venez de province, que c'était un peu compliqué. Mais merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. Et merci pour ce beau livre. Et à très bientôt, Jean-Claude Bonnet.
Bien sûr, merci infiniment.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.